Bams Aloha. Tegi Nfatrore. Musique du monde sur RFI.
Deux rendez-vous dans cette émission, la session live de Souad Massi qui sort son nouvel album Omnia et les secrets de fabrication d'une bande originale du film Portrait d'une jeune fille en feu de Céline Sciamma, signé Parawan et Arthur Simonini. Arthur sera notre invité en fin d'émission. Ça faisait 4 ans que Souad Massi n'avait pas sorti d'album. Omnia représente son souhait, son rêve, sa prière pour l'Algérie. Souad Massi dans la session live. Bonsoir. لك يدي ضربتني بموس وانا لي كنت خرجة من حي تتلك خدي كسرت لي دروس وانت تاكل وتشرب حديت لك عسل شربت لي مرار انت ساقي وانا الشارب والمصافير لون ودار وانا اللي عطيت لك باش تدرى يا ربي حط عليا Merci sur RFI dans les musiques du monde.
Musique du monde. La session live. Sur RFI. RFI.
Swann Massy était au chant à la guitare, Mehdi Dalil l'accompagnait au mandol avec le titre Omnia, qui est également le titre du nouvel album. Un nouvel album, sixième, septième, septième si on compte le live, sixième si on compte en album studio. Qu'est-ce qu'on fait en mathématiques ?
Sixième.
On va pour sixième, d'accord.
Je suis pas très forte en mathématiques, on dit sixième.
Omnia, ça veut dire mon souhait. Alors, votre chanson démarre de cette manière, c'est la traduction française que j'ai sous les yeux. Ça dit... Je t'ai donné la main, tu m'as poignardé, et moi qui viens juste de sortir d'une guerre, je t'ai tendu la joue, tu m'as giflé. Toi qui vis sans contrariété, je t'ai offert du miel, tu m'as abreuvé d'âpreté. Et ça termine par « J'ai tant pleuré, mon cœur est froid, il déborde de peine, je déteste les fleurs, et tout sourire qui se dessine sur les visages. » Comment ça va ?
Ça va mieux.
Swann Massy, je crois que c'est la première fois qu'on se rencontre et c'est une bonne idée.
Merci.
Je vais vous faire défiler votre carrière en quelques secondes et vous allez voir, c'est vertigineux. Vous êtes né à l'été 72 à Bab El Oued, ça veut dire la porte de la rivière. C'est une commune de la wilaya d'Alger. Les parents sont kabyles, alors je ne sais pas si on écoute Aït Mengele, Idir ou Nes Matoub à la maison. Ils n'ont pas tous très bien fini. Je sais qu'il y a de la chanson algérienne, il y a du chabi forcément, mais côté maman, c'est plutôt de funk américain et de la chanson
James
française.
Brown.
James Brown.
Voilà, c'est ça.
Moustaki, Brassens.
Tout à fait.
Et vous, avec les frères, c'est quoi ?
Musique classique déjà, parce qu'on a pris des cours de guitare classique, piano. Et après, c'était Sting, c'était Kenny Rogers. C'était vraiment, c'est très, très mélangé. Chacun a ses goûts.
Et il y a une grand-mère aussi qui est très intéressante, qui aime la poésie, qui vous fait partager cet amour pour les mots.
J'étais très passionnée par ma grand-mère, qui ne parlait pas trop. Mais toutes ces paroles étaient proverbes, poésie. Dommage qu'on n'a pas enregistré ces paroles. Et ce n'était pas tout le monde qui la comprenait. Mais maintenant, avec l'âge, j'ai beaucoup de regrets. Mais voilà, j'ai grandi avec ça.
Alors, vous avez fait des études de musique à l'École des Beaux-Arts d'Alger, mais aussi des études d'ingénieur en génie civil. Vous étiez urbaniste, vous avez déjà travaillé en tant qu'ingénieur en Algérie.
Travaillé autant que j'étais stagiaire chez un architecte, mais je n'ai pas travaillé longtemps parce que je travaillais que 6 mois dans un bureau d'études et après je suis venue en France.
Évidemment, vous êtes une jeune fille avec des parents qui sont plutôt ouverts, qui sont très aidants, qui sont très aimants. Vous allez commencer à monter sur scène à la fin des années 80, mais vous allez rentrer dans une période très, très noir, ce sont les années 90 en Algérie. Évidemment, à ce moment-là, vous êtes une jeune fille, vous avez 20 ans. Avoir 20 ans en Algérie dans les années 90, ça ressemble à quoi ?
C'est très difficile, parce qu'à 20 ans, on ne comprenait pas tout ce qui se passait autour de nous. Et moi, j'étais rebelle, je ne voulais pas me laisser faire. Je portais mon jean, je portais ma guitare et je m'en foutais de tout le monde.
Vos parents étaient d'accord ?
Mes parents, ils avaient peur pour moi, mais voilà, je pense qu'il y avait un peu d'inconscience, mais voilà, je ne voyais pas ma vie autrement.
Est-ce que l'idée de la répression est restée dans votre tête, dans vos cellules ? Est-ce que vous avez toujours peur si ça crie ou s'il y a des mouvements de foule ?
Ben, je pense, oui, on a vécu avec beaucoup d'interdits, et jusqu'à maintenant, je n'accepte pas qu'on dise « n'essaie pas de comprendre ».
En 99, vous êtes invité en France au Cabaret Sauvage pour chanter dans une soirée qui s'appelle Femmes d'Algérie. Et c'est là que votre vie va basculer, puisqu'il y a une maison de disques qui va vous repérer, c'est Island Mercury, donc Universal. Et vous sortirez votre premier album qui s'appelle Raoui. Et c'est en 2001. Vous avez 25 ans, vous venez de quitter l'Algérie, vous ne rentrerez pas. Et entre-temps, vous ferez aussi partie des chœurs de Cordoue. Et là, je vous propose d'écouter un peu votre vie en 2 minutes.
ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك يما نكتب باليك لازم نكتب باليك دراهم ما يخصونيش يما نكتب باليك لازم نكتب باليك الريح ما يبسنيش يما نكتب بالي لازم نكتب بالي دراهم ما يخصونيش يما نكتب بالي لازم نكتب بالي كدموع ما تعرفنيش يما نكتب بالي لازم نكتب بالي هنا كاين غير الباب ما يشوف فيك حتى واحد Ça اللي بعته واللي شحال مكتب قريته شحال محكاية.
Bon voilà, on a fait un survol rapide de votre carrière. Je parlais de l'année 2001, c'est l'année de la sortie de Raoui. Raoui, le conteur, qui vous a emmené à la Cigale à l'Olympia. Pour une jeune artiste, c'est quand même ce qu'on appelle un vrai succès. En 2003, il y a l'album Deb. En 2005, Mesque et Lille, avec Jean Lamotte, qui est votre producteur. Bachung Ismaëlo, un producteur génial qui connaît vraiment bien l'Afrique. Mm-hmm. Vous avez à la guitare Djeli Moussa Kouyaté, un griot guinéen mandingue. À la percussion Mino Sinelou, qui a un peu flirté avec Miles Davis. On peut dire que la vie vous sert. En 2010, Ouria, alors là c'est la période Francis Cabrel, poésie française. Alors il y a un truc qui m'éclate complètement dans votre carrière, c'est que vous vous retrouvez deux jours à Londres avec Paul Weller, qui a quand même complètement dépoussiéré le rock'n'roll à la fin des années 70, années 80. Ça doit être marrant pour vous ça.
J'avais fait une belle découverte. On me dit voilà, il y a Paul Weller qui veut travailler avec toi. Moi je pensais qu'on allait juste faire connaissance. J'arrive dans son studio, il me donne une feuille, un stylo. Il m'a dit, j'ai envie de chanter avec toi. Je dis, je suis très contente, honorée. Il m'a dit, maintenant, écris le texte. Et je lui ai dit, mais je ne peux pas écrire comme ça. Il me dit, non, je ne sais pas, mais moi, je vais improviser, écrire. Je me suis mise de côté. Ben, j'écris Let me be in peace. Laissez-moi vivre en paix. Pensant à tous les enfants qui font la guerre. Et on a improvisé cette chanson, c'était une très très belle rencontre.
C'est un grand monsieur toujours dans la musique et qui a vraiment imprimé de sa patte et de sa présence, son visage aussi, ses textes, avec le groupe de Jump, il y en a eu d'autres aussi, Style Council, etc. Mm. Enfin, des vrais fans. 2015, c'est El Mutakalin Moon, ce qui veut dire les maîtres du mot, les orateurs. Alors là, vous faites un album très spécial parce qu'il est en arabe littéraire. Mm-hmm. L'arabe littéraire, c'est pas tellement la langue que l'on parle chez les chanteurs maghrébins, c'est plus le Moyen-Orient, les Oum Kalsoum, etc. Quelle était la réaction chez vous en Algérie, dans la famille Kabyle ? Vous, l'arabe littéraire, ils vous ont pris pour une traître.
Ils m'ont pris pour une folle.
Ça vous va
bien. Ils m'ont dit, on ne comprend pas pourquoi la poésie, 6e, 9e siècle, personne ne va comprendre pourquoi tu fais ça. Ben là, j'ai dit, parce que j'aime la poésie, j'ai toujours aimé la poésie, je voulais rendre hommage à cette belle langue.
Et ça correspondait aussi à une époque qui peut-être était peut-être un peu plus tombée dans l'obscurantisme. C'était votre manière à vous de dire, écoutez, au 9e siècle, au 6e siècle, on avait des gens très très bien chez nous qui chantaient des choses extraordinaires, qui s'ouvraient sur les astres, sur la médecine, sur la littérature, qui aimait le bon vin.
Tout à fait, j'avais envie d'un peu de justice. En mettant la lumière sur la beauté de la culture arabo-musulmane, c'est de là où est parti le projet Les Cœurs de Cordoue. Mettre la lumière sur les sciences, les cultures, l'architecture, le dessin, l'astrologie arabe.
Alors sur le nouvel album, Oumnia, il y a un titre qui s'appelle « Je chante » et il est signé Majid Cherfi de Zebda. Alors Majid Cherfi, c'est aussi un écrivain. Vous me racontez un peu Majid Cherfi et cette chanson ?
Alors on s'est rencontrés à Montpellier. On a rendu hommage au poète palestinien Mahmoud Darwish.
Le poète de la Palestine. Son nom, c'est la Palestine maintenant.
Tout à fait. Il a lu un texte à lui et j'ai adoré. Et moi, j'avais aussi lu un poème qui s'appelle « On t'oubliera ». Et à la fin, je lui ai dit si tu as des textes en français, ça. Il m'a dit pourquoi tu n'as pas chanté. Est-ce que tu as écrit en français? Je lui ai dit non, j'ai un peu de mal, mais si tu en as, ça me plairait. Et il m'a envoyé. Je lui ai parlé un petit peu. Il m'a envoyé ce texte Je chante.
Alors en chantant Je chante avec Majid Cherfi, vous faisiez allusion à la poésie de Mahmoud Darwish que vous avez chantée, mise en musique. Est-ce que ça correspond aussi au fait... est-ce qu'il y a un lien avec le fait que vous refusiez de chanter en Israël toujours aujourd'hui ?
Franchement, j'ai refusé aussi de chanter en Arabie Saoudite.
Ah ben voilà, comme ça c'est un partout.
Il y a des endroits là où je
Arabie Saoudite, Israël, pour l'instant, c'est pas possible pour vous.
Non, je peux pas. Même si j'ai des auditeurs et des auditrices qui m'aiment bien là-bas, je peux pas.
Oui, il y en a qui vous attendent des deux côtés.
Je sais. Si je vais là-bas, il y a plein de pays où je vais plus chanter.
Je chante.
Je chante pour ma terre qui n'a pas vu le jour et pour mes enfants qui ne la verront jamais ou la connaîtront. Sur un cahier d'écolier, alors je chante. Je chante pour tout l'or qui ne fait pas le poids. Moi, toute ma richesse respire sous mon toit, car on est riche que d'avoir donné la vie. Je chante. Je chante quand la nuit a des airs qui reviennent nous dire que demain ne tient pas ses promesses. On peut mourir deux fois pour l'amour d'un enfant. Alors je chante, alors je chante. Je chante pour les femmes qui n'ont pas de couronne et qui se battent pour qu'on ne couvre pas leur tête. Et les hommes diraient, la vie est une fête. Alors je chante, alors je chante. Je chante. Je chante l'air le plus joli. Je chante. Je chante. Je chante l'air qui s'appelle Mélancolie.
Petit coup de blues, hein, Soul Massy, avec Je chante, texte de Magid Cherfi. Bah, oui, on ne peut que penser à l'Algérie, en tout cas vous concernant. L'Algérie, chanter l'exil, la douleur, la nostalgie, c'est évident. Vous vivez ici depuis 99. Je chante pour ma terre qui n'a pas vu le jour. Cette terre s'est bien réveillée, hein, au printemps dernier. Le 3 avril, vous avez organisé un concert de soutien, un concert citoyen aux manifestants algériens qui refusaient le cinquième mandat de Bouteflika. Ils ont eu à peu près... gain de cause, pas tout à fait. Vous ne vous êtes pas rendu en Algérie à ce moment-là.
Depuis ?
Est-ce que pendant les manifs qui ont duré un certain temps, est-ce que vous avez fait un aller-retour Paris-Alger ou vous avez vu ça de France ?
Non, je suis restée ici. J'allais aux manifestations ici en République, je participais.
Oui. Vous chantez en français, on l'a entendu dans le titre Je chante, mais c'est pas nouveau, puisque vous avez côtoyé sur un album Francis Cabrel. Quand vous chantez français, votre langue française est une belle langue, c'est une langue qu'on entend bien. Il y a des groupes français qui chantent en anglais, on sent l'accent français derrière l'anglais, ça coule moins de source. Est-ce que vous croyez que le public français reconnaît cet effort, ce pas que vous faites vers eux, ou alors on n'attend pas ça de vous, que vous chantiez en arabe dialectal ou en français, pour nous, c'est kiff-kiff.
Alors, moi j'adore la langue française, qui est une très très belle langue. J'ai en étudié, comme vous le savez, le français, c'est notre deuxième langue. On commence à l'âge de 7 ans, mais c'est vrai qu'on me dit qu'il y a un petit accent, mais qui ne me dérange pas. Ça fait partie aussi de mon identité, mon histoire, et que j'assume parfaitement.
Vous allez rejoindre votre musicien pour Pays Natal. On en reparle juste après. Soit de Massy sur RFI dans la session live des Musiques du Monde.
Sentir l'odeur du pain au sésame ou au cumin, fallait faire la queue longtemps dans ce pays. Toute la ville n'est que banlieue, on se débrouille comme on peut. Il pousse entre les pavés des fleurs meurtries. Et pourquoi le mot maison là-bas rime avec prison et les voisins sont les gardiens. Ici, je tu lis mon journal où je veux, c'est banal. Ici, je n'ai plus peur au petit matin. Il n'y avait rien à regretter là-bas. Alors je suis partie loin de chez moi. Ici, je suis bien, je suis chez moi, chez toi. Pourtant, j'ai des souvenirs qui restent en moi. Devant les bras zéro dans l'avenue, l'aveugle au violon très fort dans les rues que des vélos, j'entendrai toujours ces bruits qui continuent. Des travaux jamais finis pour des enfants qui en rient, tous ces visages sans un nom dessus. Pour les voisins d'à côté, je ne suis pas une immigrée, car ils font comme s'ils m'avaient toujours connue. Il n'y avait rien à regretter là-bas, alors je suis partie loin de chez moi. Ici je suis bien, je suis chez moi, chez toi. Pourtant j'ai des souvenirs qui restent en moi. J'y pense encore, j'ai un peu mal. Même si je suis loin, si je suis bien chez toi, je n'ai pas quitté mon pays natal.
Pays natal, soit de Massy sur RFI dans les musiques du monde.
Music du monde, la session live. Music du monde sur RFI.
Alors nous avions deux guitaristes, Swad Massy, chant et guitare, accompagné par Mehdi Dalil à la guitare également sur le titre Pays Natal, qu'on peut retrouver en version studio sur le nouvel album Omnia, à découvrir en concert à Paris les 14 et 15 octobre au Café de la Danse. Alors ce titre Pays Natal, c'était une chanson de Marie-Paul Belle.
Un texte de Françoise Malé-Joris.
Oui, Françoise Malé-Joris, c'était l'époque des Françoises chez Julia, Françoise Malé-Joris, Françoise Sagan. Françoise Malé-Joris, c'était la compagne de Marie-Paul Belle. Parlons des femmes. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans une société qui déteste les femmes, dans un monde qui les déteste?
Je n'ai pas envie de dire ça.
Ben dites autre chose.
J'ai envie de dire que le monde sans les femmes ne pourrait exister.
Ben déjà pour les faire débarquer sur Terre, dans un premier temps, d'une manière utérine.
Oui, c'est ça. Et je pense qu'on a besoin de gens qui sont bien, que ce soit les hommes ou les femmes. J'ai envie de dire ça. Parce que chez les hommes aussi, il y a des personnes qui sont bien.
Mais quand vous étiez petite à Alger, quand vous jouiez au football, on dit que vous étiez un garçon manqué. Est-ce que pour vous, cette identité, enfin, de ressembler à un garçon manqué, c'était plus facile pour sillonner la
ville ?
Pour
m'échapper ?
Oui, et jouer au ballon.
Pour m'échapper aux tâches ménagères et pour avoir un petit peu de liberté. Je pensais réellement que j'étais un garçon quand j'avais 7 ans.
Quand vous avez appris que vous étiez une fille, c'était un choc?
C'était ma tante qui m'avait arrêtée dans un coin de cuisine. Elle m'avait dit, tu sais, tu es une fille, il faut que tu l'acceptes. Tu n'es pas un garçon. Même si tu as les cheveux courts, tu vas finir par te développer, par devenir une femme. Pour moi, j'étais triste.
D'avoir de la poitrine, ce genre de choses.
Oui, tout. Je voulais pas leur ressembler parce que je voyais qu'elles étaient tristes et qu'elles avaient un...
Résignées.
Oui, ça me faisait peur de leur ressembler.
Quand vous étiez une jeune fille, enfin bref, un garçon manqué, le code de la famille faisait que vous pouvez vous ne pouviez pas, par exemple, aller au bord de la mer toute seule, fallait qu'il y ait au moins votre frère avec vous qui vous accompagne, quelque chose comme ça.
Ça, c'est culturel, on va dire. C'est pas le code de la famille. C'était le statut de la femme au Maghreb, au Moyen-Orient. On était considérés toujours comme des mineurs. Et du coup, on n'avait pas le droit de beaucoup de choses.
Aujourd'hui,
la situation, bien sûr, beaucoup de choses ont changé. Mais il y a du travail.
En 2014, vous avez tenu le rôle principal d'un film palestinien, enfin en tout cas réalisé par la palestinienne Najwa Najjar, Eyes of the Sea. Vous avez également fait des bandes originales de films. En 2006, il y avait Azur et Asnar de Michel Oslo, et en 2006 aussi, donc Mauvaise foi de Rush Dizem. Vous êtes toujours dans ce milieu du cinéma ou vous en êtes éloigné?
J'adore le cinéma, j'adore les musiques du film. Je me suis un petit peu éloignée parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de musique de film, mais je serais très contente de le faire.
Omnia arrive après 4 ans. Vous avez mûrement réfléchi ce projet après les maîtres du mot arrivés au souhait. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'était très difficile pour moi, je vous avoue, d'écrire après avoir travaillé sur des textes de grands auteurs. C'est difficile parce que...
Vous ne me sentiez pas à la hauteur?
Je me suis jamais sentie à la hauteur, de toute façon. Je sais que j'écris des mots simples, mais je peux avoir un petit peu la prétention dans ce dernier album que je me suis un peu cassé la tête, mais je n'arriverai jamais au niveau de ces grands auteurs. Mais j'ai toujours le même problème, je me sens... À chaque fois que je commence un nouveau projet, j'ai l'impression que je suis incapable et de le faire, et de le terminer, et d'être à la hauteur. Je ne me suis jamais sentie... J'ai toujours des réticences, j'ai toujours des craintes, j'ai toujours peur de décevoir mes fans ou ceux qui m'aiment et qui m'écoutent.
Et cette réserve vous sert ou vous dessert quand vous montez sur scène? Vous faites comme certains musiciens, vous allez vomir avant de monter?
C'est tellement... Ça m'est arrivé.
Oui.
Ça m'est arrivé d'avoir tellement mal au ventre que je retarde un peu mon entrée sur scène. Ça m'arrive, bien sûr. Ou de ne pas pouvoir, respirer. Ou, voilà.
Ça va mieux
maintenant. C'est-à-dire, je le gère mieux avec l'expérience. Je le gère mieux, mais ça m'arrive d'être tétanisée, de ne pas pouvoir respirer. Voilà.
Vous respirez dans un sac en plastique, comme tout le monde?
Non.
C'est pour changer le pH du sang. En général, ça aère un peu le cerveau. Il y a un an, Rachida disparaissait. Il y a un album posthume qui sort, qui s'appelle Je suis africain, parce que l'album était prévu, il était enregistré l'été dernier. Quels étaient vos rapports avec Rachida?
J'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois. On habitait le même quartier. Et je discutais de temps en temps avec lui. J'ai découvert vraiment un bel artiste qui adorait la peinture et qui était très cultivé. Et à chaque fois que je le croisais, il me parlait de beaucoup de choses. J'apprenais beaucoup de choses avec lui. Je regrette de ne pas l'avoir connu avant, parce qu'on était dans le même label, on avait les mêmes amis, mais...
Il n'y a jamais eu de collaboration
entre
vous.
Tout à fait, oui.
Lui aussi, la question des racines était extrêmement importante, mais pas que. Vous, c'est la Kabylie, enfin, vous êtes Kabyle, donc berbère d'Algérie. Est-ce que ce monde-là, vous le connaissez? Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
La culture berbère, c'est une culture orale,
donc si on veut faire un travail dessus, on a intérêt à aller faire du collectage dans les villages, hein, parce qu'on ne trouvera pas ça dans une bibliothèque.
J'ai grandi dans cette culture, et ça a été transmis surtout par les femmes. Avec la langue kabyle, avec les vêtements, avec la cuisine. Et malheureusement, en Algérie, quand j'étais jeune, ce n'était pas une langue qui était permise, on ne l'apprenait pas à l'école. Les choses ont évolué, maintenant on l'étudie. C'est une très belle langue, belle culture. Et je n'ai pas chanté en kabyle, j'aimerais bien le faire. Oui, c'est un projet, dès que je rencontrerai des auteurs avec qui je vais m'entendre, je le ferai. Et c'est une culture, j'aimerais bien qu'elle soit, qu'on lui donne sa vraie valeur, surtout au Maghreb.
Je crois que la première fois que vous êtes passée à la télévision, vous avez essayé de tout débrancher à la maison pour pas qu'on vous voie.
Tout à fait.
Et finalement, votre père vous a vu, puisqu'il a dit à votre maman, dis donc, la petite qui est à la télé, là, c'est pas notre fille, et c'est pas ta fille.
J'étais mal barrée parce qu'il y avait les matchs.
Ah.
Alors, il faisait tout pour réparer.
C'est-à-dire que vous avez complètement déréglé la télé quand vous avez changé les chaînes.
Je faisais sauter carrément le...
Le compte, oui, d'accord.
Voilà, je faisais ça, oui. Et je regardais, je surveillais le journaux pour voir à quel jour je passais, à quelle heure et tout. Et mon père était étonné. Ben, il regardait, mais j'étais avec un groupe de rock, en fait.
De hard rock, même.
Oui, mais cette partie, c'était rock. Et il disait à mon mère, c'est pas ta fille, là, qu'on voit. Et ma mère, elle n'osait rien dire. En fait, ça s'est super bien passé, parce qu'il m'a dit qu'il adorait la chanson. Et en fait, j'avais plus de peur qu'autre chose. Et en fait, le problème était venu de ma mère. Parce que ma mère qui commençait à me dire, qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Personne ne voudrait se marier avec toi. C'était ça le problème de ma mère.
Aujourd'hui, vous avez deux filles, ça va?
Oui, ça va très bien. Donc, une qui me dépasse, mais ça va.
Donc, maman est contente?
Bien sûr, elle est contente, bien sûr. Elle est contente, elle aime ce que je fais, elle m'encourage. Elle adore ce que je fais. Et elle est très contente de cet album parce qu'elle n'aimait pas très... Je suis désolée de le dire, mon album Moutekalimoun, parce qu'elle me disait qu'elle ne comprenait rien, déjà. C'était l'arabe classique.
Mais oui, mais c'est le problème, c'est qu'il faut être hyper... Enfin, faut faire des hautes études pour comprendre cette langue-là.
Je sais.
Le journal se fait en arabe classique.
Classique. En Algérie. Non, ça se fait en...
En dialectal?
Non, ça se fait en arabe classique, en français et en kabyle.
D'accord.
Maintenant, on n'a aucune excuse. Bon, c'est juste les informations qui sont parfois erronées. Mais sinon, il y a les trois langues.
Elle l'a dit.
Oui, j'ai pas peur de le dire, c'est la vérité.
Oh non, ça va. Ouais. Dans quel état d'esprit vous étiez en 2001 quand vous avez sorti Raoui? Qu'est-ce que vous avez raconté avec ce Raoui? Je reviens aux origines, presque. Ce qui vous a rendu célèbre et fait faire des...
Je sais pas, on me dit ça, célèbre, je me sens pas célèbre. Hein. Je vis normalement.
Oui, mais les femmes qui sont belles ne se sentent pas belles non plus. Alors vous inquiétez pas, vous êtes dans la norme. Revenez.
Je reviens, oui. Je sais pas, quand cet album est sorti, j'avais du mal à me détacher de cet album parce que c'était mon premier. Et je me dévoilais beaucoup dans cet album et je savais pas comment faire parce que je parlais de l'Algérie. On était encore en guerre civile, c'était très très dur pour moi parce que comme si je trahissais un peu mon pays. Je sais pas, c'est bizarre parce que je me disais, je chante alors que la plupart de mes chansons sont malheureusement tristes, alors que mon pays traverse quand même une décennie noire et très très dure. Après, j'ai appris par la suite à l'accepter autrement. Et c'était la première fois que je me retrouve en France, loin de ma famille. C'était un chamboulement radical dans ma vie.
Et je vous ai demandé de nous interpréter Raoui pour terminer cet entretien, cette session live. Pas sous la menace, j'ai pas de couteau, j'ai pas de flingue, j'ai rien du tout.
C'est comment vous avez insisté.
Oui, c'est vrai que le sourire, et un sourire
ça
plein
marche.
Dedans.
Le sourire, ça marche. Sur moi, ça marche. À la gentillesse, ça marche.
Bon, avec Mehdi Dalil qui vous accompagne peut-être à la guitare ou au mandol, je ne sais pas. Mehdi, vous choisissez quel instrument pour Raoui?
Mandol.
Au mandol, évidemment.
Je voulais juste vous dire...
Dites-moi.
Que Mehdi Dalil m'énerve.
Il vous énerve?
Oui, parce qu'il joue non seulement le mandol, mais il joue la guitare, il joue les percussions, il joue l'accordéon, il joue le violon. Juste pour dire qu'il touche à tous les instruments.
Et qu'est-ce que vous voulez, qu'on lui mette un contrat sur la tête?
Je sais pas.
Qu'on lui casse la figure?
On va
j'ai quelques amis. Attendez au moins le concert du 14 et du 15, on lui fera la peau après.
Merci,
Swann Mati. Je vous laisse avec Raoui, merci infiniment. Et on vous applaudit bien fort. Et c'est avec Rawi que Swan Massi tire sa révérence dans cette session live. Alors je rappelle que la sortie de l'album Omnia, c'est le 11 octobre. Elle reviendra sur RFI le 10 dans quelques émissions pour présenter son disque. Et surtout, il y a le concert au Café de la Danse à Paris les 14 et 15 octobre. Je pensais en fait sérieusement y emmener Arthur Simonini, qui a un faible pour les femmes d'Afrique du Nord, Emel Matlouti, Ouria Aishi, Djour Djoura. Arthur Simonini est notre invité parce qu'il a signé avec Parawan, il a co-signé la bande originale du film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui a reçu le prix du scénario au dernier festival de Cannes. Une bande originale qu'on n'oubliera pas parce qu'elle dure 3 minutes. Alors une BO qui se mérite aussi parce qu'il faut attendre le générique de fin. Et encore, à la toute fin, nous voilà pris par une montée de Scala de Milan pour écouter les Quattro Stagioni dell'estate d'Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi sur RFI dans les musiques du monde, c'est pas souvent. Arthur Simonini, bonjour.
Bonjour Laurence.
Est-ce que vous m'accompagneriez au concert de Swan Massi?
Avec grand plaisir.
Là c'est fait, je vais demander 2 places. Je l'ai expliqué en début d'émission, vous êtes ici pour présenter la bande originale du dernier film de Céline Sciamma qui s'appelle Portrait la jeune fille en feu. Alors c'est une BO très étrange parce qu'il n'y a pas beaucoup de sons. En fait on entend le bruit des vagues, le bruit des oiseaux, le bruit du fusain sur la toile, les femmes qui parlent. C'est une histoire d'amour entre deux femmes, entre une peintre et une jeune femme qui doit se marier et à qui on doit faire le portrait pour présenter au futur mari. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Et 3 minutes de musique dans un film, vous le dites dans une interview, faut pas se louper.
Ah, tout à fait.
Alors comment ça s'est passé, le travail avec Céline? On vous montre la scène, enfin qu'est-ce qu'elle explique pour que vous puissiez faire quelque chose et quoi?
Alors on n'a pas vu la scène pour la bonne et simple raison qu'on a dû composer la musique avant le tournage, étant donné que sans trahir trop le scénario, la musique qu'on entend est chantée par un chœur de femmes à l'écran. Et donc, pour des raisons de synchronisation, on devait composer tout avant le tournage. Donc, on n'avait aucune idée de ce qu'allait être l'image. On avait le scénario, on avait quelques discussions avec Céline. Mais donc, on était un peu à l'aveugle, si je puis dire.
Arthur Simonini, on commence à entendre cette musique au milieu du film. On voit des femmes avec un bonnet autour d'un feu. C'est la fête au village. On est au XVIIIe siècle. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'elle chante? Elle chante en latin. Et visiblement, ce serait un texte de Céline Sciamma. Qui dirait quoi?
Qui dit qu'elles ne peuvent pas s'enfuir ou elles ne peuvent pas s'envoler.
Pendant le film, il est question de musique. À un moment, on voit un piano avec un plaid dessus parce que la maison où se tourne l'histoire est un peu en travaux. On a l'impression que personne n'y habite. C'est assez étrange. Ça fait un peu maison témoin. C'est très, très, très vide. On se dit, il va se passer quelque chose. Il ne se passe rien. Et là, les deux actrices se parlent, Noémie Merlan et Adèle Haenel, au sujet de la musique précisément.
Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain. Vous serez libre.
Être libre, c'est être seul.
Vous ne croyez pas?
Je vous dirai demain. Je vais aller à la messe.
Vous voulez communier?
Je veux entendre de la musique.
L'orgue, c'est beau, mais c'est la musique des morts.
C'est la seule que je connaisse.
Vous n'avez jamais entendu un orchestre?
Non. Oui. Racontez-moi.
Ce n'est pas facile de raconter la musique.
C'est pas facile de raconter la musique. Vous vous souvenez de votre premier émoi, Arthur Simonini?
Alors, je me souviens pas de mon premier émoi musical. Par contre, je me souviens d'être fasciné par le violon tout petit, mais je n'arrive pas à retrouver le souvenir précis.
Le violon, c'est l'instrument avec lequel vous avez démarré la musique.
Oui, tout à fait.
De mémoire. Un instrument difficile, vous avez commencé à 5 ans, c'est presque une torture.
Oh, j'irai pas jusque-là.
Et qui vous a mis le violon dans les mains à cet âge-là?
En fait, c'est moi qui ai tanné mes parents en boucle, pendant un an, je crois, de mes 4 à 5 ans, tous les matins.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu ce violon de quelle manière? Parce que vous me dites...
Mais c'est ça que j'arrive pas à retrouver. Je me souviens avoir vu un violon, mais je n'arrive pas à retrouver dans quel cadre.
Et vous avez écouté beaucoup Vivaldi par la suite?
Pas tant que ça.
Parce que c'est un vrai punk, hein. Il a complètement réformé l'utilisation, la manière de tenir un violon. Alors on revient au film Portrait d'une jeune fille en feu. 3 minutes de musique avec Parawan, un texte en latin chanté, parlé par des femmes. Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous réfléchissez pour trouver un écrin à cette musique? Parce que vous n'avez pas vu les images, on est au XVIIIe siècle, qu'est-ce que vous faites?
La question qui s'est posée, c'était est-ce qu'on essaye de faire une sorte de travail de faussaire, essayer de faire quelque chose qui pourrait être chanté à cette époque ou pas. Question qu'on a évacuée assez vite parce qu'on s'est dit qu'on n'y arriverait pas. Et Céline avait aussi un désir de quelque chose de plus particulier, de plus étrange pour cette scène. Du coup, on a complètement évacué tout ce qui était danse ancienne parce qu'au début on avait regardé peut-être de prendre des rythmes de Forlan, de Gig, de Menuet de cette époque. On s'est dit ça va pas marcher. Céline voulait quelque chose d'assez entraînant. Donc on est parti sur une base rythmique qui devient ensuite une polyrythmique frappée dans les mains et là-dessus on a empilé de la polyphonie pour créer quelque chose d'entraînant et créer quelque chose qui n'est pas de cette époque mais juste un objet particulier.
Vous trouvez que c'est difficile de raconter la musique ?
Très difficile.
À quelqu'un qui n'en a jamais entendu, est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un n'ait jamais écouté, entendu de musique ?
Je sais pas si je peux imaginer ça mais en tout cas même à des gens qui sont musiciens, je trouve ça difficile. C'est peut-être un exercice que je trouve le plus difficile.
Maestro. Flirte avec l'oratorio, Arthur Simonini ?
Je ne sais pas.
Est-ce que vous pensez que les musiques d'église, parce que ça peut aussi faire penser à certaines musiques, pas gospel ni chant grégorien, mais quelque chose d'assez particulier, c'est de la musique pour les morts ?
Je ne sais pas. Moi, je suis influencé par le scénario, donc ça n'a pas été pensé comme ça, en tout cas. Moi, ça me fait plus penser à une cérémonie, mais je suis très influencé. Donc
un rituel ?
Ouais.
Et alors, qui sont ces femmes qui chantent ? Elles font partie d'un chœur particulier ?
Ah, c'est les chanteuses de l'ensemble Sequenza 9-3, qui est un chœur mixte la plupart du temps. Mais là, pour les besoins, il n'y avait besoin que de femmes. Donc ça, l'effectif féminin était doublé. Normalement, il y a seulement 6 femmes dans le chœur. Là, donc on a doublé l'effectif.
Et ça a duré combien de temps, l'enregistrement ? Vous les avez cantonnées ?
Une soirée.
Ouais. Vous m'enregistrez la nuit pour ce type de musique ?
Moi, j'aime bien enregistrer la nuit et vivre la nuit de manière plus générale. Là, ça s'est fait vite. Donc, c'était comme ça.
Vous aviez beaucoup de projets en cours, notamment avec Bibi Tanga et les Sélénites. Vous voulez m'en parler ? Parce qu'on va écouter un titre en totale exclusivité, puisque vous êtes en train d'enregistrer. Je vous laisse nous présenter le nouveau projet de Bibi.
Nouveau projet, c'est toujours le même groupe. Donc, un ménage à 5 qui dure depuis... 12 ans maintenant.
Ménage à 5, vous me faites rêver. Sorcier.
Et voilà, il y a un nouvel album qu'on est en train d'enregistrer, qu'on espère terminer dans peu de temps.
La couleur est particulière, elle est très différente de ce que vous avez fait avant ?
Non, je trouve qu'on reste assez cohérent.
Cohérent. Vous voulez me présenter le titre Rolling Stone qu'on va écouter ?
Rolling Stone, un mélange de rythmique assez répétitive qui est un peu le principe de composition dans ce groupe avec les boucles du professeur inlassable et sur lequel tout le monde vient se greffer et jouer et après chacun apporte sa touche donc c'est de la batterie, de la guitare, des arrangements de cordes.
Tout ça vous amuse parce que j'ai noté dans votre biographie que vous avez quand même obtenu le prix d'harmonie et de contrepoint au conservatoire mais aussi vous avez un certificat de musique de l'Inde.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est de l'étude des ragues indiens.
Mais hindoustani, carnatique, nord-sud. Ah, ce sont les plus rugueux. Vous aimez les difficultés, mon ami.
Oui.
Il aime les sorcières, les difficultés. Écoutez, restons-en là et restons amis. Oui, mais on va écouter Rolling Stone par Bibi Tanga. Vous avez une petite idée de la sortie de l'album, Bibi Tanga and the Selenites?
Pas trop.
Pas trop?
Non.
Vous laissez porter, vous, hein?
Oui.
Sur une vague.
Pour faire un bel album et puis après on décide.
Merci Arthur
pas se
d'être passé dans ce studio. Je rappelle
merci
aussi que vous avez d'autres projets. Hein. Vous êtes sur Canine, qui est un duo. Vous travaillez aussi avec le professeur Inlassable. Vous avez remixé aussi Léonie Pernet. Vous êtes un homme très demandé.
J'essaye de l'être.
Oui. Merci Arthur, à bientôt.
Merci.
I was always laughing. Now those days are gone and I'm still singing. When I walk along the road, I got this feeling. Most of us believe without learning. Like a rolling stone, I go on and on. Like a rolling stone, I go on. I make the breakthrough. Ain't no one gonna help me, so I'm still.